Chaque année, en octobre, la Fête de la Science est une occasion d'aller à la rencontre de scientifiques et d'unités de recherche. Elle a cette année pour thème les intelligences. Une belle occasion pour moi de pousser la porte du laboratoire de virologie ULR 3610 de l'Université de Lille et du CHU de Lille.
Mon nom est Didier Aubert, je suis le directeur de cette unité de recherche qu'on appelle donc laboratoire de virologie ULR 3610, hein, son appellation, et l'intitulé plus spécifique est pathogenèse virale, et par ailleurs je suis donc professeur de virologie à la fac de médecine et chef du service de virologie au CHU de Lille.
Voilà, donc virologie, quand on entend ça, on pense virus, forcément. On vient d'une période un peu compliquée. Je ne sais pas si pour vous, ça vous a servi ou desservi, ou si ça vous a mis en vedette d'une certaine manière, ou en obligation de trouver de nouvelles ressources.
Disons qu'il y a peut-être un peu des deux, au sens où, évidemment, ça a été beaucoup de travail sur le port du diagnostic, avec les tests à réaliser. Ça, c'est une partie de l'équipe s'en est chargée. Une autre partie de l'équipe a été très sollicitée pour réaliser des tests de virucidie, c'est-à-dire de recherche d'activité d'antiseptiques et désinfectants à l'époque pour lutter contre le virus. Donc ça a été aussi une grosse activité. D'autres demandes, en fait, dans ce cadre-là, plutôt de recherche-développement. Par ailleurs, comme ça a été finalement donc une énorme occupation, ça a pu aussi détourner, je dirais, des projets, je dirais, originaux et initiaux, ce qui fait qu'il y a peut-être des avantages et il y a peut-être eu aussi quelques inconvénients, finalement, de cette arrivée.
La virologie, c'est forcément quelque chose de passionnant pour ceux qui s'y intéressent. Peut-être on peut imaginer dans cette discussion comment intéresser des gens à la recherche, parce qu'on a peut-être besoin de nouveaux scientifiques, de ressourcer.
Ah, donc, effectivement, c'est un domaine très vaste, un peu jeune, puisque finalement, les virus étant minuscules, il faut quand même rappeler que la taille moyenne d'un virus, c'est un 1/10 de millimètre. Minuscule, donc pas visible au microscope optique, avec des outils qui sont arrivés donc finalement plus tardivement par rapport au microscope optique. Et donc l'étude de ces agents a été, je dirais, plus récente, et il y a énormément de choses à faire, du fait. On en découvre des virus tous les jours, que ce soit d'ailleurs des virus concernant les humains, mais aussi les animaux, les plantes et autres, ce qui veut dire que tout ça faisant un tout, il y a énormément de travail dans le domaine des virus. Concernant les virus des humains, ceux qui nous concernent hein, pour les pathologies humaines, on en découvre et on découvre surtout des modifications dans, finalement, je dirais, la répartition de ces virus qui avant étaient parfois très localisés à certaines zones du monde, qui du fait des échanges internationaux, du fait du commerce international, du fait des changements climatiques, fait qu'on voit des virus qui auparavant se retrouvaient dans certaines zones du monde, se retrouvaient ailleurs, y compris dans les zones tempérées. Donc on va se retrouver là avec effectivement une énorme activité et bien sûr les bonnes volontés et les personnes motivées sont les bienvenues. Effectivement, on espère qu'effectivement que les plus jeunes viendront à ces activités, puisqu'il y a un travail colossal à faire hein, concernant les virus, que ce soit, en virologie médicale, en virologie fondamentale, dans le domaine donc, du diagnostic, dans le domaine de la recherche. C'est vraiment un domaine très vaste et où il y a vraiment beaucoup à faire.
Qu'est-ce qui vous a passionné dans ce secteur, dans cette profession, mais surtout dans cette spécialité ?
Alors, c'est intéressant que la question vous posez, puisque ça nous ramène finalement à, je dirais, le cheminement. Quand j'étais plus jeune, très jeune, je disais déjà, tiens, je voudrais être docteur en Afrique. Ah, très jeune. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on avait effectivement des membres de la famille qui étaient effectivement impliqués d'une manière ou d'une autre dans des activités un peu de ce genre, peut-être. Ou en tout cas, c'est une idée. Et je m'intéressais beaucoup aux animaux. Et finalement, chemin faisant, ce n'est pas les animaux habituels que j'ai finalement étudiés, puisque je suis arrivé à d'autres sortes, je dirais, d'êtres vivants, ou plutôt moins vivants. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on pourra avoir concernant le côté vivant des virus. Je suis arrivé finalement aux agents transmissibles, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les microbes, mais que l'on pourrait donc préciser sous les appellations de bactéries, parasites, virus. Et donc finalement, je me suis retrouvé à m'intéresser de très près au virus. Et chemin faisant, donc, dans le cursus des études médicales, puisque au départ je suis médecin, donc la spécialité qui s'est proposée a été finalement biologie médicale, mais surtout ses travaux, je dirais, concernant les virus pour nous amener à la recherche à la faveur de la préparation donc, des diplômes habituels qui mènent donc, à ces études. Et donc c'est là que j'ai mis le pied à l'étrier, en quelque sorte, et je suis entré dans un labo de viraux qui était à l'époque dirigé par mon prédécesseur, qui était le professeur Ouattret, et je me suis donc passionné effectivement pour ces agents, et puis tout s'est enchaîné, donc à l'époque c'était ce qu'on appelait le DEA, qu'on préparait donc dans le cadre d'une année recherche pendant les études de médecine, pendant le troisième cycle, quand on était interne, et de là, ben, effectivement, après le DEA, ça a été la thèse, et puis post-doc et toutes ces choses pour consolider ses connaissances et puis ensuite prendre un poste d'assistant hospital universitaire au CHU de Lille, puis maître de conférence université et praticien hospitalier, et puis ensuite, donc maintenant, depuis maintenant déjà 2004, professeur d'université, praticien hospitalier et chef de service. Et nous avons réussi tous ensemble à monter une unité de recherche qui a été labellisée en 2002. Donc il m'a fallu quand même 10 ans après mon retour des USA, puisque j'ai été un moment aux USA, pour construire finalement cette unité de recherche à partir de 2002 et faire en sorte que, eh bien, au fur et à mesure des évaluations, cette unité de recherche poursuit son existence. Et actuellement, on vit le cinquième contrat. C'est des contrats, au départ, qui étaient quadriennaux, puis sont devenus quinquennaux. Et nous avons récemment donc réussi à passer l'évaluation pour un sixième contrat qui commencera en 2026 jusqu'en 2030.
Donc quand on fait cette profession, c'est une passion, c'est une vocation. Est-ce qu'au fil du temps, justement, on ne s'ennuie pas grâce aussi à des évolutions scientifiques, technologiques qui permettent d'aller plus vite, plus loin, plus fort ?
Ah, on s'ennuie jamais, ça c'est clair, parce que le problème qui se pose surtout, c'est qu'en fait on cumule beaucoup de choses entre, il y a la recherche, mais il y a aussi l'enseignement qui nous incombe. Et sans compter, bon, ça c'est à l'échelle de l'équipe, le diagnostic et le suivi des infections virales. Donc ça fait à l'échelle d'une équipe pas très importante en effectif, beaucoup d'activités. Donc déjà, on n'a pas beaucoup le temps de s'ennuyer. Et en plus, comme vous le dites, effectivement, c'est aussi quelque chose de passionnant, puisque ces évolutions, les connaissances qui s'ajoutent au fur et à mesure font que dans nos recherches, pour prendre que cet exemple-là, il s'ajoute toujours soit des nouvelles technologies, soit finalement des nouveaux principes, des nouveaux concepts. On va explorer des pistes, des idées et voir cheminer les choses de manière effectivement... c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la passion qui nous anime parce qu'il faut passer beaucoup de temps et si on n'est pas passionné, évidemment, ça va être un peu difficile de réaliser toutes ces choses.
Donc on va parler bien sûr de nouvelles possibilités liées à l'intelligence artificielle. Mais avant cela, on pourrait aussi définir en quoi, dans vos métiers, l'intelligence, votre intelligence, celle de votre équipe et l'intelligence collective, ça peut être nécessaire à trouver des solutions et à faire évoluer la science.
Ah, c'est clair qu'effectivement, on parlait d'intelligence collective. C'est clair que par le biais finalement maintenant de l'accès par le biais des bases de données, comme PubMed par exemple ou autre. Donc on a accès donc à beaucoup d'informations, de publications, donc par le biais d'interactions avec différentes équipes, on a là donc accès à toute une intelligence collective qui nous permet finalement de faire maturer une idée, de la faire évoluer, d'une part. On a à notre niveau besoin de faire avancer les choses avec les moyens du bord. Donc là, il faut parfois effectivement faire preuve d'une certaine, je dirais, débrouillardise, si ce n'est pas intelligence, pour pouvoir effectivement avancer, réaliser des travaux à notre niveau, et puis imaginer. Parce que c'est peut-être là, finalement, qu'on va finalement s'illustrer, c'est peut-être essayer de trouver des nouvelles pistes, des nouvelles idées pour avancer. Ce qui nous a permis, au fur et à mesure donc, des travaux qui se sont déroulés sur le thème qui est le nôtre, sur lequel on reviendra peut-être, d'effectivement de perdurer autour de cette idée et à chaque fois de réfléchir, d'apporter quelque chose avec ce que nous on peut apporter aux autres et ce que les autres peuvent nous apporter. Donc c'est forcément un échange, un équilibre entre cette intelligence collective dont vous parlez et notre propre, je dirais, approche intelligente.
Vous avez énormément publié, alors en général en équipe, hein, avec diverses équipes, hein, toute cette production écrite qui est mise à disposition, souvent en anglais d'ailleurs, hein, à qui sert-elle ?
En fait, c'est comme je vous disais, ça fait partie de cette intelligence collective, c'est-à-dire que l'on va effectivement publier nos résultats, ça va être l'objet des travaux qui peuvent être des travaux originaux, où là on raconte nos expériences et on fait état des observations qui peuvent servir à d'autres pour en ajouter d'autres et avancer, ainsi de suite. Ça peut être des publications qui constituent des revues générales pour mise au point qui peut être très utile et très didactique pour les scientifiques, pour les étudiants, pour les doctorants, etc., du monde entier d'ailleurs. Comme vous l'avez dit, donc, c'est souvent dans la langue qui est en fait le véhicule international. Et à partir de là, ça va servir à un grand nombre, plutôt donc un public, on va dire, scientifique, voire médical. Il y a parfois du grand public qui peut être amené à se pencher sur certaines de nos publications, mais elles sont essentiellement destinées effectivement donc à une communauté scientifique et médicale, et surtout scientifique, vu les travaux de recherche parfois assez pointus que l'on réalise, et qui n'intéressent pas forcément un grand public, mais qui peut intéresser au moins la communauté qui est concernée. Comme dans notre cas, on s'intéresse particulièrement, par exemple, au rôle des virus dans le diabète de type 1. Donc c'est déjà quelque chose qui est assez ciblé, en quelque sorte, oui.
Est-ce que de votre côté ou du côté de votre équipe, vous allez aussi puiser dans cette base de publications des choses qui peuvent vous intéresser, même dans des domaines qui peuvent aller plus loin ou donner un éclairage un peu différent ?
Ah, tout à fait. C'est vrai que grâce justement à cet accès à des bases de données et de publications, on peut aller chercher bien au-delà de notre domaine plus spécifique. Comme les virus sont nombreux et variés, ils infectent aussi bien donc les animaux, des humains que des animaux. Donc on peut aller voir aussi du côté de ces modèles-là des pistes de réflexion. On peut aller chercher donc des méthodes. Par exemple, je prends un exemple simple. On a travaillé dans le passé, on travaille encore avec des collègues de la faculté des sciences, en fait, sur le plateau Villeneuve-d'Ascq, qui sont des chercheurs de l'IEMN, par exemple. Où finalement, évidemment, IEMN, on pense pas forcément biologie dans un premier approche, bien que là-bas, ils ont développé aussi des approches vers la biologie. Mais leurs outils ont permis finalement d'aborder les choses. On va voir ailleurs ce qui se fait et qui peut effectivement être utile pour effectivement soit comprendre, on est là plutôt dans le cadre de la pathogénèse des infections, soit essayer de lutter d'une autre manière contre les virus. Donc c'est un petit peu d'ailleurs les deux grands axes, avec un troisième qu'on a ajouté qui est celui des marqueurs d'infection, qui en fait regroupe cette possibilité d'aller détecter une infection virale d'une manière ou d'une autre, ou d'appliquer des principes, des techniques pour étudier ou diagnostiquer telle ou telle infection. C'est toutes ces choses qui font que au quotidien, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est assez passionnant au sens où on va être confronté et rencontrer comme ça des domaines et des personnes très différentes, avec des spécificités différentes qui peuvent effectivement, en se réunissant d'une manière ou d'une autre, arriver à réfléchir d'une autre manière ou aller dans d'autres directions.
Donc souvent, ces bases documentaires, on peut y accéder aussi avec des mots-clés, etc., j'imagine. Est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre aussi non seulement d'accéder à ce qu'on cherche, mais aussi de faire parfois des synthèses sur un domaine particulier ?
Ah, certainement. En tout cas, je prendrai un exemple de l'apport de l'intelligence artificielle dans des travaux récents qu'on a pu réaliser. Il s'agissait d'analyser des résultats. Il s'agissait d'analyser finalement la cible d'anticorps qui reconnaissent donc des protéines virales. Alors, on avait réalisé des travaux, d'ailleurs en collaboration avec un groupe d'une autre discipline très impliqué dans l'étude par spectrométrie de masse, notamment, et analyse de ce genre de résultats. On avait donc des informations. Mais il fallait encore essayer de traiter cette information pour voir, mais finalement, quelles étaient dans ces protéines reconnues par ces anticorps, quelles étaient donc les cibles de ces anticorps. Eh bien, ce n'était pas évident, effectivement, d'aborder les choses comme ça, je dirais, avec notre intelligence, on va dire, naturelle. Mais donc, on a fait appel à l'intelligence artificielle pour analyser, et on a réussi à en sortir des informations extrêmement intéressantes, qui nous auraient pris certainement beaucoup plus de temps. Donc, certaine efficacité dans cette approche où, en fait, par interaction entre cette intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, on arrive à sortir quelques pistes intéressantes de réflexion.
Donc de plus en plus, on va être en duo avec l'intelligence artificielle. Il faut s'y préparer. Certains, ils sont prêts déjà.
Oui, certainement. Oui, tout à fait. Dans tous les cas, et comme vous l'avez dit, soit pour aller sélectionner, soit pour analyser des informations, il est clair que ça va être un outil qui peut apporter beaucoup. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège qu'on entend beaucoup de ne plus faire l'effort intellectuel, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle pourrait effectivement, comment dire, avoir cet effet, je dirais, néfaste. Hein. Mais non, si on reste, en fait, avec la possibilité d'utiliser cet outil, en vérité, comme un outil, bien pensé, bien utilisé, ça va être effectivement très important et très utile. Alors, évidemment, il y a d'autres applications. Là, j'ai donné qu'un exemple, mais il y a certainement beaucoup d'applications connus à venir, qu'on n'imagine peut-être même pas, qui vont un jour nous aider beaucoup. Après, ça peut nous aider également à créer peut-être des modèles, en fait, de représentation, de construction des virus, où ça va certainement nous aider beaucoup aussi à voir les choses ou à comprendre les choses, certainement. En tout cas, c'est prometteur.
Et peut-être même à représenter les choses, parce que nous, dans l'absolu, comme ça, on ne sait pas trop quand on parle d'un virus, mais peut-être en 3D, avec une imprimante, on pourrait imaginer de les restituer d'une certaine forme de présentation qui parle au public.
Ah ouais, non, c'est clair. Il est clair qu'il y a certainement matière, en fait, à associer donc cette intelligence artificielle et toutes les approches de modélisation pour arriver finalement à rendre mieux compte de ce que sont les virus, voire pourquoi pas comment ils se comportent, comment ils interagissent dans les cellules, et à partir de là, donner quelque chose de beaucoup, comme vous dites, beaucoup plus visuel, beaucoup plus facile à appréhender, surtout dans les, pourquoi pas dans les trois dimensions de l'espace, pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Et d'ailleurs même, c'est une telle complexité au niveau de la cellule que même pour nous, ce serait très bien de pouvoir avoir les choses finalement d'une manière encore plus, je dirais, réaliste, pour être comme si nous étions dans la cellule, si j'ose dire, et voir ce qui s'y passe. Ce serait effectivement très intéressant, effectivement.
Alors c'est vrai que les outils d'observation ont beaucoup évolué. À l'Université de Lille, il y a vraiment des appareils très précis où on peut aller chercher l'infiniment petit quasiment, hein, et ça va encore évoluer. Quand on représente une cellule ou quelque chose comme ça, ça n'a pas forcément rapport avec ce qu'on arrive à capter en termes de d'images. Les images ne sont pas réellement de ce qui est représenté souvent après en transcription, en schéma, etc., qu'on présente aux étudiants.
C'est vrai que l'exemple que je prends souvent dans les enseignements de virologie, notamment aux étudiants en médecine, c'est que quand on prend une image de microscopie électronique, bon, on voit quelque chose qui ressemble plus ou moins à une espèce de tâche, pas forcément. Il faut savoir qu'effectivement, grâce à l'intelligence, notamment grâce aux mathématiques, certains ont été capables d'exploiter ces données de microscopie électronique pour, par des traitements mathématiques, arriver à reconstruire. C'est pas tant. Mais effectivement, donc, on peut imaginer qu'on va avec des outils, et parfois étonnants. Et on connaît, bien sûr, le microscope optique, mais qui permet de voir les cellules, mais pas les virus, le microscope électronique, et puis des tas de méthodes qui ont permis d'analyser la structure des virus, de connaître, par exemple, comment ces virus étaient fabriqués, en quelque sorte, en faisant appel à la diffraction des rayons X, par exemple. Mais aussi, on peut faire appel à des méthodes plus mécaniques que le microscope dont on parlait. Je pense notamment à la microscopie de force atomique. Quelque chose d'extraordinaire, qui est utilisé pour analyser les métaux, les surfaces, qui a permis de voir la surface des virus, et d'en avoir une idée un peu plus précise, finalement, de à quoi ressemblait le virus. Et là, on était vraiment avec l'analyse de la surface. C'est extraordinaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose d'étonnant, où là, on est toujours épaté par le débordement, je dirais, d'ingéniosité, je dirais, de l'espèce humaine pour aller étudier des choses aussi minuscules. Rappelons quand même, comme je disais tout à l'heure, qu'on est là avec des agents en moyenne un 10 000ème de millimètre, et qu'on arrive quand même à en sortir des tas d'informations extraordinaires. Donc c'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Si on devait, par exemple, faire un pas en arrière et aller dans le passé, mais nos anciens seraient, je dirais, en si peu de temps, les progrès qui ont été faits. Quand on pense que, si on revient un petit peu en arrière, à l'époque de Louis Pasteur ne connaissait pas les virus, les virus n'étaient pas encore connus, et pourtant, Louis Pasteur a fait énormément de choses pour lutter contre une maladie virale. Je ne prendrai qu'un exemple. C'est la rage. Il ne savait pas que c'était en fait un virus. Bien sûr, on savait qu'il y avait des agents tout petits, mais tout ça n'était pas encore connu. Tout ce qui s'est fait depuis, ou à partir de ces éléments-là, on a réussi à découvrir plus finement la structure de ces virus, comment ça fonctionne, élaborer des stratégies, des médicaments, des moyens de lutte, ça paraît, je dirais, c'est vertigineux, en fait. la somme de connaissances.
Donc ces virus, ils sont innombrables. Il y en a qu'on découvre tous les jours et il y en a même qu'on crée.
Ah, on peut créer ce qu'on appelle des chimères, des choses qui n'existent pas dans la nature. Quand par exemple, on crée, par exemple, pour un exemple simple, c'est un vaccin pour lutter contre un virus transmis par les moustiques qu'on appelle le virus de la dengue. Qui s'écrit D-E-N-G-U-E, hein, ne pas confondre avec un autre mot, mais le virus de la dengue. Eh bien, le vaccin contre la dengue, c'est un vaccin chimérique où l'on prend un virus proche. Alors, dans une des versions, c'était par exemple le virus de la fièvre jaune utilisé pour le vaccin contre la fièvre jaune, dont on remplace, parce que c'est des virus de la même famille, dont on remplace certains gènes par les gènes du virus de la dengue. On en fait quatre comme ça parce qu'il y a quatre sérotypes de virus de dengue avec les protéines correspondantes du virus de la dengue. Et on fait quatre chimères, on administre ça aux patients et on forme une vaccination avec un virus qui n'existe pas, mais qui, voilà, donc nous permet de lutter contre des virus qui existent. Donc c'est assez passionnant. On peut effectivement, comme ça, créer de toutes pièces certaines choses.
On parle beaucoup du moustique-tigre aussi, avec ses effets, hein, bien sûr, sur des populations, pas seulement en Afrique, mais ça se déplace en Chine ou ailleurs.
Hein. Ah, oui,
et donc, est-ce qu'il y a des solutions chimériques par rapport à ça?
Ah, donc on parle ici de ces moustiques qu'on appelle Aedes albopictus, moustique-tigre, hein, ou grillé noir et blanc, qui est en fait un vecteur bien présent au départ en Asie du Sud-Est et qui a voyagé, puisque c'est un moustique qui voyage très volontiers. Donc il s'est retrouvé un peu partout, et notamment s'est installé même en France, en fait, dans des pays tempérés, etc. Et donc, alors, comment lutter contre les moustiques en général? Il y a plusieurs approches, évidemment. Il y a les méthodes habituelles avec des produits chimiques. Il y a d'autres méthodes qui consisteraient à libérer dans la nature des moustiques, je dirais, stériles, qui feraient que, bon, finalement, ils ne se multiplient pas. Avec donc d'autres attitudes faisant appel à certains agents transmissibles qui infectent les moustiques. Donc, il y a plusieurs possibilités pour lutter contre les moustiques, effectivement, qui sont par ailleurs, effectivement, des vecteurs de virus. On prend Aedes albopictus, est un vecteur de nombreux virus qu'on peut regrouper sous l'appellation des arbovirus, c'est-à-dire des virus qui proviennent des arthropodes, c'est-à-dire des moustiques, tiques ou mouches piqueuses par exemple, et notamment c'est le cas du virus de la dengue dont on parlait, et puis d'autres dont on entend parler de plus en plus, virus chikungunya par exemple, virus Zika qui peut être transmis par ce moustique vecteur Aedes albopictus ou moustique tigre comme on l'appelle aussi.
Donc il y a toujours aussi cette question de déontologie, de service à l'humanité que la science doit rendre, et puis des tentatives de sociétés commerciales pour tirer parti de recherches, mais pas forcément pour l'intérêt collectif. Je pense par exemple à ces agriculteurs industriels qui voudraient éviter certaines maladies qui pourraient être débarrassées peut-être à la main ou autre, en créant des virus capables de réduire certaines maladies de végétation pour augmenter leur rendement, mais avec peut-être le corollaire de limiter le nombre d'espèces, etc. Donc là, c'est une vraie responsabilité.
Ah, tout à fait. Et là, en fait, vous touchez du doigt le grand problème de la biodiversité. En fait, on est en train d'oublier que la nature a su finalement se débrouiller au travers de la biodiversité pour lutter contre beaucoup de problèmes, et qu'il est clair que si l'on imagine que l'on réalise des cultures de façon beaucoup plus limitée en termes de diversité, là on a un petit souci. Et essayer de lutter en amenant encore, je dirais, plus de technologies, c'est peut-être aussi parfois jouer à l'apprenti sorcier, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. On entend actuellement des choses, on voudrait jouer contre le réchauffement climatique avec des attitudes en perturbant, enfin manipulant le climat. C'est un petit peu, ça va dans ce sens, c'est-à-dire attention, qu'est-ce que ça va donner, puisque l'expérience prouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et sans vraiment prendre la mesure, peut-être parfois sans les connaître, les conséquences, avec parfois, je dirais, des conséquences dramatiques. On pense par exemple aussi à l'introduction, parfois bien, je dirais, involontaire, d'espèces qui nous viennent d'ailleurs, qui viennent perturber l'espèce locale. Donc ce bouleversement de l'équilibre peut avoir effectivement des conséquences. Et là, si on commence à se dire, bon, ben, on va essayer de lutter contre ceci avec des tas d'arguments et faisant appel, pourquoi pas, à des virus, faudra manipuler ça avec grande précaution, effectivement. Hein, parce que, effectivement, ça pourrait peut-être être très intéressant pour ponctuellement lutter contre ceci, mais est-ce que ça, il n'y a pas risque d'autres conséquences? Ça reste à voir. En tout cas, il faut rester prudent, effectivement.
Voilà, donc la rentabilité à court terme, ou tout au moins pour un nombre limité de personnes très intéressées et qui gagnent beaucoup d'argent autour de ça, est à mettre en perspective avec l'intérêt collectif.
C'est clair. Ah, c'est clair, c'est que là, il faut vraiment, et je crois que maintenant, il va falloir vraiment réfléchir de très près à l'intérêt collectif. Hein. Je crois que ça devient sérieux.
Par rapport à ça, justement, est-ce que vous voyez, vous, entre la recherche en labo et la recherche et développement, est-ce que c'est justement dans cette deuxième partie qu'il faut mettre des bornes?
Il faut voir. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut à un moment donné, effectivement, qu'il y ait, je dirais, à un moment donné, une recherche plus en amont, pour en sortir donc, des connaissances, des idées, et voir ensuite donc, comment développer ça. Je dirais que si cette recherche et ce développement donc est tout bénéfice en quelque sorte pour le plus grand nombre de l'humanité, pas de souci. Ah, si effectivement ça devient un peu plus, je dirais, ciblé, que ça n'intéresse que quelques-uns, il faudra effectivement être très vigilant. Et je pense que, il y a toute une réflexion concernant l'éthique et autres qui est en place, qui devrait effectivement être là pour, qui est présente pour essayer de veiller au grain, si je puis dire, et faire en sorte que les choses se passent bien. Vous savez, par exemple, que bon, il y a des réticences concernant l'utilisation et les manipulations, utilisant donc des embryons, des choses comme ça, en tout cas. Donc, ce qui fait que tout est en place, je dirais, pour être vigilant et que, ça reste dans des limites, je dirais, du raisonnable, en quelque sorte. Je pense qu'il faut rester confiant. L'être humain n'a pas vocation à s'autodétruire, on peut l'espérer, en tout cas. Ce qui fait que je pense que s'il y a des approches qui peuvent être, délicates, potentiellement même dangereuse pour l'humanité, je pense que tout sera fait pour cadrer en fait toutes ces choses, hein, de manière très, très étroite, je pense.
Est-ce que vous comptez davantage sur le législateur qui souvent sont des personnes qui ont une culture politique mais pas forcément scientifique, ou sur la cohérence et la cohésion des scientifiques entre eux?
Là, effectivement, on touche à un problème effectivement important, puisque même si on peut imaginer que donc, les scientifiques ont en quelque sorte leur mot à dire, il faut voir dans quelle mesure finalement donc, cette information passe et est récupérée par le monde finalement, je dirais, de la société civile ou même du monde politique pour prendre des décisions. Et là, c'est là que ça va être effectivement un peu délicat, puisque peut-être que selon, je dirais, les objectifs des uns et des autres, peut-être que les résultats ne seront pas forcément, je dirais, ceux attendus. Ça reste à voir. Mais effectivement, là, il faut rester, vigilant et observer ça avec beaucoup d'attention, pour voir quelle est l'interaction et quels résultats ça peut nous donner, cette interaction entre le monde scientifique et puis les décisions qui, au final, vont faire que. Ça, c'est intéressant.
Donc là, il y a deux niveaux, on va dire. Il y a le côté juridique, est-ce qu'il y a un cadre? Et puis, il y a aussi les laboratoires de haute sécurité, comment ils restent bien étanches? On se souvient de certains labos qui ont fait parler d'eux.
Ah, clairement, donc il est vrai que là, imaginons que, effectivement, donc, des virus sont détenus dans des laboratoires. Il reste, je dirais, très important que ces virus restent dans ces laboratoires et ne soient pas, je dirais, diffusés, vendus ou autres, hein, pour éviter toute dérive. Ça, c'est clair. Hein. Et ça, effectivement, c'est important, hein, comme problématique. Surtout que quelques virus qui sont quand même potentiellement agressifs, dont on sait qu'on a réussi grâce à la vaccination, se débarrasser. On pense au virus de la variole. Depuis les observations, je dirais, les approches vaccinales de Jenner, qui datent vers la fin du XVIIIe siècle, en à peu près 200 ans, puisque c'était en 1796 que Jenner avait, mis en place son système, on est arrivé finalement moins de 200 ans à décréter au niveau de l'OMS en 1980 que la variole était éradiquée grâce à tout ce qui avait été mis en place par Jenner, qui encore une fois ne connaissait pas les virus, on ne les connaissait pas, mais avait mis en place une façon de lutter qui était ce fameux vaccin contre la variole qu'il avait imaginé en fait à cette époque et qui a bien sûr évolué depuis le temps, mais qui en 200 ans a permis d'éradiquer une maladie. C'est extraordinaire. Mais ce virus, effectivement, il existe encore dans certains laboratoires. Alors c'est qu'un exemple qu'on prend comme ça, mais il ne s'agirait pas effectivement de faire n'importe quoi avec ces virus, quoi, c'est clair.
Alors justement, est-ce que l'intelligence artificielle, bien sûr associée aux chercheurs, ne pourrait pas mettre en place des protocoles plus fins et plus encadrants qui évitent les éventuelles failles qu'il y a peut-être maintenant?
Ah, ça, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait, parce qu'en vérité, sur le plan très pratique, soit, en fait, pour éviter qu'on ne manipule des agents, on imagine qu'on parvienne totalement à les modéliser. Un petit peu, c'est l'approche qui essaie de se développer pour, effectivement, remplacer les modèles animaux par des approches, in silico. Imaginons qu'on arrive à faire ce genre de choses, peut-être que ça permettrait d'éviter ou de limiter la manipulation de ces virus et donc les dérives, pourquoi pas. Alors, ça, c'est peut-être un doux rêve, peut-être, mais c'est peut-être une solution. Après, pour, l'immédiat, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ces virus soient bien, entre guillemets, sous clé, mais vraiment à double tour, pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Mais pourquoi pas, effectivement, imaginer des approches différentes, notamment in silico pour certaines études. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Parce qu'en vérité, à un moment donné, on va toujours se retrouver bloqué. C'est que même si on avait donc des modèles parfaits, c'est ce qu'on rencontre lorsque l'on veut finalement se poser la question d'approche vaccinale. On a beau raisonner in vitro, voire in silico, à un moment donné, il faut tester in vivo. Et là, on se retrouve avec les imperfections des modèles et on arrive à l'in vivo, à l'animal. Et de l'animal, on se dit, oui, mais est-ce que ça marche aussi chez un plus grand animal, un animal plus proche de l'homme? Et là, donc il y a toujours actuellement des limitations. On peut peut-être imaginer qu'effectivement, dans un futur, on sera tellement performant dans la modélisation que là, on pourra dire, bon, OK, on peut tester ça dans tel modèle et faire abstraction des animaux, par exemple, pour tester des vaccins. Ça reste à voir. Mais en tout cas, pourquoi pas l'imaginer vis-à-vis donc, de cette étude ou cette façon d'aborder les virus, plus dangereux. Pourquoi pas?
On parle d'IA prédictive aussi pour le langage, etc. On ne peut pas imaginer des IA prédictive en termes de action et réaction à prévoir?
Alors là, je ne sais pas du tout. J'avoue que je ne suis pas du tout en mesure d'imaginer concrètement quelque chose à ce niveau-là. Donc je ne pourrais pas trop vous apporter de réponse à ce niveau-là. Sans réponse bien objective et bien précise, j'avoue.
Est-ce que les équipes donc, de recherche peuvent facilement faire appel à des spécialistes du domaine de l'IA pour les aider à peut-être réfléchir, solutionner, avancer vers des directions qu'elles n'auraient pas imaginées?
C'est certain. C'est un peu ce que l'on disait. C'est l'apport, finalement, de ces outils qui, bien utilisés, vont certainement... Et donc, il y a effectivement intérêt à se rapprocher de personnes qui savent bien manipuler ces outils pour pouvoir les utiliser à bon escient. Et dans ce sens, il est clair que ce rapprochement ne peut être que bénéfique, c'est certain. Si on veut aller plus loin et faire appel à ce genre donc d'outils pour, pourquoi pas, développer des modèles, des approches, des principes ou des réflexions ou des idées, ça sera certainement effectivement utile et certainement efficace.
Voilà, finalement, on est toujours au début d'une nouvelle aventure.
Ah, ça, clairement. C'est que là, c'est comme vous l'avez dit au départ, qu'est-ce qui fait que effectivement on est comme ça motivé? C'est ça, c'est ce développement d'aventures, comme vous dites, de nouvelles aventures, de conjonctions, de rencontres avec des outils, avec des personnes qui permettent d'aller plus loin pour essayer d'aborder finalement des problèmes de plus en plus complexes et qui vont peut-être nous permettre d'avancer davantage, de résoudre des problèmes et de, pourquoi pas, d'en savoir plus sur les virus, pourquoi pas de mieux lutter contre les virus, pourquoi pas en tout cas. Et c'est l'espoir. On est finalement peut-être encore qu'au tout début, d'une façon d'aborder les problèmes, surtout avec des agents aussi récents dans leur découverte et leur compréhension que sont les virus. On n'en sait encore que peu de choses, finalement, hein, donc, de ces virus. On se pose beaucoup de questions sur le rôle des virus dans des maladies, comme actuellement, nous-mêmes, dans notre labo, on s'intéresse beaucoup au rôle des virus dans le diabète de type 1. Donc, on commence à découvrir, mais il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Peut-être, on pense beaucoup, bien sûr, à l'impact du virus par le biais de sa persistance dans l'organisme. C'est une notion, finalement, que n'avait pu mettre en œuvre et publier déjà en 2000, qui s'est concrétisé dans différents modèles, et on voit effectivement que chez les patients, on peut détecter effectivement des traces de la présence de virus dans l'organisme des patients diabétiques, etc. Mais comment exactement les choses se passent, ça reste encore très mystérieux. Donc il y aura peut-être effectivement une approche qui va nous permettre comme ça d'aller encore plus loin dans la compréhension de ce phénomène. Puisque si l'on comprend un phénomène, si on comprend comment un virus joue un rôle dans une maladie telle que le diabète de type 1, qui est tellement lourde pour les individus, tellement lourde pour la société, il est clair qu'on aura peut-être un moyen de lutter beaucoup plus efficacement contre ce virus et donc contre cette maladie. Et donc c'est un espoir important. Effectivement, si ces outils peuvent apporter, il faudra effectivement les mettre à profit pour aller plus loin dans cette réflexion, c'est certain.
Merci professeur Robert.
Écoutez, merci à vous, c'est un plaisir.
Voilà donc quelques questions que j'ai pu poser au professeur Robert de l'unité ULR 3610 de l'Université de Lille et du CHU de Lille, laboratoire de virologie. J'aurais eu bien sûr beaucoup d'autres questions à poser. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.